Bonjour, Rémi Tchamala me demande d'ajouter Andy. Mon nom c'est Mbayirindi Molondi Walter. Je suis recommandé au Capi Action. Depuis septembre dernier, un enfant de 13 ans est interné aux cliniques universitaires de Kinshasa. Le petit Lambert souffre d'une tumeur dans la bouche, sous la langue. Lambert devrait se rendre dans un hôpital spécialisé en France afin de subir une intervention chirurgicale. Ce n'est pas possible et pour cause, ses parents n'ont pas les moyens de le prendre en charge. Son médecin traitant organise une collecte de solidarité en faveur de Lambert. À Bukavu, de nombreuses personnes se prescrivent des médicaments et achètent des produits vendus à même le sol, au marché de Kadutu principalement. Exposés au soleil à longueur de journée, certains de ces médicaments sont déjà périmés. Comment consommer ces médicaments? C'est au gré de la spéculation. Malgré les différentes mises en garde du corps médical, la population, une partie du moins, préfère se procurer les médicaments auprès des vendeurs ambulants que de se rendre dans une officine communément appelée pharmacie. Et puis, Bounia, la situation de l'enseignement dans le district de l'Ituri est préoccupante. Depuis le début des conflits armés, beaucoup d'établissements scolaires, tant dans la ville de Bounia que dans l'intérieur du district de l'Ituri, ont été détruits, d'autres incendiés, selon les témoignages à la disposition de Radio Okapi. Outre ces difficultés et bien d'autres problèmes, on enregistre aussi une baisse du niveau de l'enseignement. Et voilà, en quelques mots, des lignes sur le menu du magazine Okapi Action aujourd'hui. Nous sommes heureux de vous avoir très nombreux à l'écoute. Participez au magazine, réagissez.
Okapi. Okapi à Kinshasa, sur 103.5 FM.
Il y a quelques semaines, pour dire presque un mois, nous vous avions parlé du sort d'une petite fille. Elle a 11 ans, son nom c'est Eugénie. Elle était internée aux cliniques universitaires. Elle souffre encore d'une insuffisance rénale très sévère. Elle survit aujourd'hui très difficilement, elle s'accroche à la vie parce que on récolte des restes de médicaments d'autres malades pour les lui donner. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire le point sur l'évolution de la santé des Eugénie. Nous allons parler de Lambert. C'est un petit garçon, il a 13 ans. Lambert a une tumeur sous la langue. Et cette tumeur l'empêche de manger. Il parle très difficilement. Il est aux cliniques universitaires de Kinshasa. Sylvie Soma s'est rendue aux cliniques universitaires et a rencontré Lambert. Sylvie, bonjour.
Bonjour Walter.
Dans quel état avez-vous trouvé Lambert?
Il faut dire, Walter, que nous avons trouvé Lambert dans un état d'amaigrissement très profond. Comme vous l'avez dit, Walter, ce garçon de 13 ans, a une tumeur sous la langue et celle-ci l'empêche de manger normalement. Les médecins sont obligés de le nourrir par sonde. Or, ce ne lui suffit pas, il a constamment faim.
Avant que nous poursuivions le dossier, car Lambert survit très difficilement, pouvez-vous nous expliquer dans quelles circonstances vous avez appris la nouvelle sur cette tumeur exceptionnelle dont souffrait Lambert?
En fait, le médecin traitant de Lambert, le docteur Kaboué, nous a appelé et nous en a parlé. Selon les explications que nous avons recueillies auprès de lui, cet enfant vient de Cabinda, dans le Kassai oriental. Le docteur Kaboué s'était rendu en consultation dans cette ville et a rencontré Lambert. Lorsqu'il est revenu à Kinshasa, il en a parlé à ses confrères médecins qui lui ont demandé de faire venir cet enfant de Cabinda afin qu'il soit pris en charge par les cliniques universitaires. Mais arrivé à Kinshasa, les médecins ont compris qu'ils ne pouvaient pas intervenir ici dans le pays. Le faire serait mettre la vie de l'enfant en danger parce qu'il avait affaire à une tumeur. On devait donc acheminer l'enfant en Europe pour qu'il puisse y subir une intervention chirurgicale.
Ok, voilà un bel exemple à suivre pour des médecins qui vont à l'intérieur du pays, qui essaient de sauver des vies. C'est leur mission, d'où les serments d'Hippocrate d'ailleurs. Mais revenons à Lambert, Sylvie. Lambert que vous avez rencontré aux cliniques universitaires, est-ce qu'il peut tout de même parler?
Pour le moment, oui, mais assez péniblement. D'ailleurs, je vous invite à l'écouter.
Papa va continuer son boulot. Tu es au Landanga, vous allez s'en habiter.
Lambert, d'une voix presque inaudible, demande qu'on lui vienne en aide. Pourquoi, Sylvie?
Cet enfant demande qu'on lui vienne en aide. Pourquoi? C'est parce que ses parents n'ont pas les moyens de le prendre en charge pour une intervention chirurgicale en France. Déjà que pour arriver ici à Kinshasa, c'est le docteur Kabwe, son médecin traitant donc, qui avait écrit à la compagnie d'aviation Ewabura pour leur demander 2 billets d'avion, donc pour lui et son frère. Imaginez un peu le billet pour la France et les soins médicaux. Selon les contacts pris par le docteur Kabwe, il leur faut 17 000 dollars pour que Lambert puisse guérir.
Pour que Lambert soit à sauver, il faut 17 000 dollars. Est-ce que il y a déjà un peu d'argent et comment est-ce que docteur Kabwe et ses confrères médecins comptent-ils opérer pour réunir cette somme d'argent?
Ben, ils comptent collecter auprès des hommes de bonne volonté.
Oui.
Mais pour le moment, ils n'ont que 5 000 dollars. Il leur manque la somme de 12 000 dollars.
12 000 dollars à compléter pour sauver Lambert. Vous pouvez réagir en écrivant action@radiocapi.net. On transmettra à Dr Kabwe qui va être notre invité dans quelques instants. Il va nous parler déjà de cette contribution. Mais tiens, ben voilà, il y a déjà un ambassadeur, Monsieur Ambassadeur Jean Trésor, qui appelle du Kasaï Oriental, qui demande comment vous envoyez la contribution. Ambassadeur Jean Trésor, écrivez d'abord à action@radiocapi.net. Notre numéro de téléphone, c'est 0 80 890 68 90. Docteur Kabwe sera ici tout
et
à l'heure en studio.
Il
va vous donner un numéro de téléphone et des précisions sur comment envoyer la contribution. Merci déjà, monsieur Jean Trésor, ambassadeur Jean Trésor. Donc, Sylvie, on parlait du mode de collecte de sous, mais au-delà de médecins, qui est-ce qui accompagne Lambert dans sa lutte pour la survie ici à Kinshasa?
Nous avons rencontré son frère.
Oui.
Il est venu ici avec son frère parce que ses parents à Kabinda sont trop âgés pour l'accompagner. Donc il est ici avec son jeune frère qui n'est pas très âgé non plus.
À peu près quel âge?
À peu près 19 ans.
À peu près 19 ans. Voilà, Lambert a 13 ans, souffre d'une tumeur terrible, il lui faut 17 000 dollars. Comme garde-malade, comme unique para autour de lui, son grand frère de
19 ans, 18, 19, 20.
Voilà qui est assez terrible. Mais revenons aux efforts qui sont en train d'être déployés pour sauver la vie de cet enfant. Est-ce que vous avez parlé avec le personnel médical qui est autour de Lambert, Sylvain?
Nous avons parlé avec son infirmière. Écoutez ce qu'elle nous dit à ce propos.
L'enfant a une masse cible l'angle, donc autour de la langue. Il est venu seulement comme ça.
Depuis combien de temps il est arrivé ici dans votre centre hospitalier?
Il est venu ici depuis le 28 septembre 2004.
Et depuis qu'il est là, comment évolue la maladie?
Bon, la maladie est toujours là. Il faut une intervention parce qu'on n'a encore rien fait. On attend les aides passer par là.
Est-ce que la masse évolue toujours?
Oui, la masse évolue.
À quelle rapidité? Est-ce qu'il peut manger? Comment il fait pour manger?
Bon, il mange par la sonde. Hein. On fait des bouillies là. On lui donne par la sonde nasogastrique. En tout cas, pour cet enfant, il faut de l'aide. Même ce qu'il mange, vraiment, ça ne lui convient pas. Parce que l'enfant, de temps en temps, a faim. Il fallait aussi qu'on fasse une intervention rapide, parce que ça traîne. Tu vois que l'enfant mangeait normalement. Et manger par la sonde nasogastrique, en tout cas, ce n'est pas vraiment suffisant pour cet enfant-là. Il faut vraiment qu'on fasse une intervention rapide pour que l'enfant revienne à manger complètement comme il mangeait avant.
L'infirmière de Lambert, rappelons à ceux de nos auditeurs qui viennent de se joindre seulement à nous que nous parlons de la situation d'un jeune homme, 13 ans, Lambert, qui est venu de Kabinda dans le Kasaï oriental. Il souffre d'une très grosse tumeur. On ne peut pas le soigner à Kinshasa. Il faut qu'il aille à l'extérieur, notamment en France. Son médecin traitant, Dr Kabwe, n'a recueilli que 5 000 dollars. Il faut 12 000 dollars assez rapidement pour sauver la vie de cet enfant de Lambert. Il y a eu un premier appel d'un ambassadeur, Jean Trésor, au Kasaï Oriental, qui veut savoir comment apporter l'aide. Faites comme lui. Docteur Kabwe sera tout à l'heure notre invité. Sylvie vient d'entendre l'infirmière de Lambert qui nous dit qu'il faut que Lambert soit opéré le plus rapidement possible. Où est-ce qu'ils vont trouver le reste du montant, 12 000 $? Est-ce qu'ils ont pris contact déjà avec le ministère de la Santé, numéro 1 de la santé de tout le monde au Congo?
Tout à fait. Le médecin traitant nous a dit qu'il avait pris contact avec un tas de gens, mais peu ont répondu favorablement à sa demande, entre autres le ministère de la Santé. Il compte plus sur des personnes de bonne volonté, mais ce n'est pas si évident, Walter. Mm-hmm. Vous savez, vous souvenez que je suis sûr de la. Vous vous souvenez, Walter, de Jeunie, je pense.
Oui, la petite Jeunie.
Elle se trouve dans le même hôpital. Et
elle
n'est toujours pas partie.
Oui,
elle
oui.
n'est jamais partie comme elle devait le faire. Elle non. devait se rendre en Belgique. Oui. Des gens de bonne volonté, un monsieur, un ambassadeur également, avaient promis de la prendre en charge, mais. Ça n'a jamais été. Je vous prie d'ailleurs d'écouter son docteur traitant, son médecin traitant, le docteur Aloni.
Eugénie, effectivement, est un enfant qui est hospitalisé chez nous pour insuffisance rénale chronique au stade terminal. Et nous avions amorcé des démarches pour pouvoir l'évacuer vers l'Europe. Alors, il s'est fait qu'une personne s'est portée garante pour venir mener les démarches pour pouvoir évacuer l'enfant vers la Belgique.
Mais qui était cette personne?
Il s'appelle l'ambassadeur Mobini. Mobini, qui est un Congolais qui réside en Belgique. Alors, la personne avait accepté de prendre tout en charge pour pouvoir faciliter l'évacuation de l'enfant vers la Belgique. Mais à ce jour, malheureusement, nous n'avons plus de ces nouvelles et nous ne savons pas ce qui se passe. La personne a accepté de la prendre en charge. Nous n'avons pas les moyens, nous, de l'évacuer. En principe, c'est une urgence. On doit tout faire pour pouvoir la sortir de cette situation.
Dans quel état elle se trouve maintenant?
Bon, pour le moment, elle se trouve dans un état stable. C'est un enfant qui circule, qui se promène. Comme...
Sous dialyse?
Elle est toujours sous dialyse et peut-être là je vais profiter du micro d'Okapi, de Radio Okapi, pour dire que nous avons un problème avec les dialyses. Hein, parce que cet enfant a reçu 200 séances de dialyse et jusque-là c'est vraiment des dialyses qui sont à nos frais, aux frais des cliniques de l'Université de Kinshasa. Nous avons lancé des appels pour qu'on puisse venir nous aider à financer l'administration pour l'achat de dialysa, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas de réaction dans la population. Et cela pose un gros problème. Ce qui fait que nous sommes obligés d'utiliser vraiment une petite quantité pour essayer de la maintenir en vie. Mais c'est vraiment une situation dramatique. Ici, j'en appelle aux autorités politiques et même aux gens de bonne volonté qu'on puisse venir vraiment nous aider pour pouvoir sauver cet enfant. Sinon, ça sera une catastrophe et on sera tous responsables de la mort de cet enfant.
Docteur Aloni, médecin traitant de Eugénie, dont nous avions parlé. Eugénie, c'est une fillette, elle a 11 ans. Aujourd'hui, selon les nouvelles, elle va très mal en point, Sylvie.
Elle est en train d'enfler.
Ah, dommage. Voilà, vous nous suivez de par le monde, des situations qui arrivent, des médecins qui déploient tout ce qu'ils ont comme science, mais ils sont limités par le manque d'équipement, le manque de moyens financiers. La bonne volonté y est, ils s'accrochent sur les cas de Eugénie depuis plusieurs semaines. Voici un autre cas, celui du petit Lambert. Espérons que pour Lambert, il ne sera pas question de quelqu'un qui se présente et qui se tracte après et qui ne donne plus signe de vie. Nous allons recevoir, nous vous le disions tout à l'heure, docteur Kaboué, médecin traitant de Lambert, qui va nous donner plus de détails sur la maladie du petit Lambert. C'était la question que docteur Paulin Tandesha a posée depuis Mbujimayi pour savoir de quelle tumeur s'agit-il. Eh bien, docteur Kaboué va répondre dans quelques instants à notre appel assez intéressant. Francis Kalombo qui demande comment faire pour faire parvenir sa contribution. Nous allons avoir docteur Kaboué tout à l'heure. Il va donner les précisions de comment et où vous pouvez déposer votre contribution pour sauver Lambert. On en profite de l'occasion pour rappeler aussi le SOS pour sauver Eugénie, un problème de dialysa et tout le reste. Ces deux enfants sont tous aux cliniques universitaires, ils sont dépourvus de moyens, on peut les sauver. En finançant des équipements de dialyse, non seulement Eugénie, mais bien d'autres enfants qui viendront après seront sauvés. En sauvant Lambert, le médecin aura pris une spécialité, comment sauver ces tumeurs, et d'autres qui viendront seront sauvés.
Et surtout que Okapi est suivi jusqu'en Belgique, peut-être que l'ambassadeur qui s'est engagé pour Eugénie nous écoute en ce moment.
Oui, voilà, nous sommes suivis dans le monde sur internet, le www.radiookapi.net. Réagissez, faites-nous parvenir vos contributions, vos suggestions. Appelez au 081-890-6890. Si vous nous suivez sur internet dans le monde, faites le 00243-81-890-6890. Tous ensemble. ensemble pour sauver des vies. Aujourd'hui, c'est Lambert et Eugénie aussi. À bientôt. Merci beaucoup, Sylvie.
Merci, Walter.
Nous parlons pour le premier sujet de ce magazine de la situation d'un enfant, un garçon, 13 ans, son nom, prénom, je veux dire, Lambert. Il est venu de Cabinda grâce à la conscience d'un médecin qui voulait sauver sa vie, mais arrivé à Kinshasa, le médecin traitant se bute à une difficulté. Il ne peut plus sauver l'enfant parce qu'il n'a pas les moyens financiers d'amener l'enfant jusqu'en France dans une clinique spécialisée. Nous avons en studio Dr Kaboué. Dr Kaboué, bonjour.
Bonjour messieurs.
Alors, vous avez rencontré Lambert à Cabinda. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'amener à Kinshasa?
Ce qui m'a poussé à l'amener à Kinshasa, c'est tout simplement ceci. Après que je sois rentré, je me suis dit, bon, s'il n'y a rien qui est fait, Lambert sera mort. Et moi, j'aurai des comptes à rendre au bon Dieu. Parce qu'il me posera la question, vous avez été à Cabinda, vous avez laissé un enfant malade, il est mort, et pourtant vous pouviez faire quelque chose. C'est ainsi que j'avais amené deux photos et je les ai présentées au chirurgien. Le docteur Joseph Diluzinga, c'est un chirurgien maxillofacial. Il me dira, docteur, je ne sais pas décider si l'enfant n'est pas à Kinshasa. Je prends les deux photos, je les montre à notre médecin directeur, le professeur Nguma. Il me dit, docteur Kaboué, si cet enfant arrive à Kinshasa, les cliniques universitaires vont le prendre à titre scientifique, c'est-à-dire, il ne paye rien. Le séjour, les examens, le fait de dormir dans le lit à l'hôpital, tout ça, il ne paye rien, hormis la nourriture et les médicaments éventuellement. Ça, c'est à votre charge. Fort de ces deux éléments, j'ai fait un dossier que j'envoie à Ayoabora. Je le dépose un mardi à midi, le mercredi matin, à 8h30, Ayoabora m'appelle pour me poser trois petites questions.
Oui.
Est-ce que Lambert a besoin d'oxygène dans l'avion? J'ai dit non. Est-ce que Lambert peut s'asseoir normalement? J'ai dit oui. Est-ce que Lambert a besoin d'une infirmière? J'ai dit non. Ayoabora me répond, docteur, c'est super. On fait directement les billets pour Lambert et son grand frère. Ça a été super, formidable. Je téléphone à Cabinda, à l'hôpital de Cabinda, pour dire, voilà, les cliniques universitaires acceptent Lambert. Ayoabora vient de donner le billet. Mettez Lambert dans un véhicule et ramenez-le à Mbujimayi. Et l'hôpital a mis Lambert dans le véhicule et son grand frère et les a ramenés à Mbujimayi. Et à Mbujimayi, Ayoabora les a mis dans l'avion, Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, à l'aéroport de Njili, mon hôpital m'a donné l'ambulance. Je suis allé prendre Lambert et son grand frère le 28 septembre. Je les ai amenés aux cliniques universitaires.
C'est émouvant comme récit, docteur. Et au niveau des cliniques universitaires, vous avez constaté, vous avez posé les premiers actes. Comment ça s'est passé jusqu'à l'étape où vous ne pouvez plus avancer?
Très bien. Donc, Lambert et son grand frère arrivent aux cliniques universitaires le 28 septembre. Le 29 septembre, tous les examens ont été faits. Examen de sang, examen de radio, examen de scanner. La difficulté, c'était le scanner. C'est-à-dire, le scanner ne sait pas différencier la langue de la masse. Et donc, le chirurgien me dit, docteur Kaboué, dans ces conditions, quand je vais opérer, je n'ai pas la certitude de vous dire que j'ai enlevé toute la masse. Et s'il reste un tout petit morceau de masse, elle va repousser. Et en repoussant, je ne sais pas où elle va s'arrêter. Et donc, on perd l'enfant. Donc, on peut opérer l'enfant en clinique universitaire, mais avec beaucoup de risques. Alors, le chirurgien me dit, pour opérer Lambert en toute sécurité, on doit faire un examen spécialisé qu'on appelle IRM, imagerie par résonance magnétique. Cet examen permet de visualiser la langue, de visualiser la masse, de visualiser les dents, les vaisseaux, etc. Et donc, le chirurgien qui va opérer, il opère en toute sécurité. Pas d'IRM à Kinshasa, pas d'IRM à Brazzaville, pas d'IRM à Bangui, pas d'IRM dans les alentours. Donc, je me retrouve bloqué. Je me retrouve bloqué avec Lambert. Que faire? Je ne peux pas le remettre à Cabinda, c'est exclu. Je ne peux pas prendre non plus cette responsabilité de le faire opérer avec des risques. C'est ainsi que j'ai continué à chercher et j'ai trouvé un hôpital en France à Saint-Étienne, mm-hmm. près de Toulouse, où nous avons un médecin, un compatriote, le docteur Richard Sokolo, que je remercie en passant. Mm-hmm. Je lui envoie les dossiers, tous les dossiers, en lui demandant de contacter son maître pour voir si c'est possible d'opérer Lambert. Son maître accepte. Mm-hmm. Son maître accepte, mais il dit l'hôpital n'est pas à même de financer.
Et c'est quoi le coût de l'opération?
Le coût de l'opération chirurgicale.
Chirurgicale,
oui.
C'est combien?
C'est 17 243 dollars américains. Mm-hmm. Sur lesquels, aujourd'hui, au moment où je vous parle, la cagnotte a un peu augmenté. On est à 7 000 quelques.
Ah, on est à 7 000?
Hein, on est à 7 000 quelques.
Ok.
On est à 7 000 quelques, et je pense avec Okapi, tout à l'heure j'ai suivi...
Il y a eu déjà deux appels, Francis Calombo qui veut contribuer, l'ambassadeur Jean Trésor qui veut aussi contribuer, Jean Trésor et au Kassai Oriental, Francis Calombo et à Kinshasa. Comment les personnes de bonne volonté peuvent apporter leur contribution et où vous contactez, docteur Kaboué?
Très bien, je leur donne mon numéro de téléphone.
Oui, s'il vous plaît.
081 082 33 93. C'est Vodacom, hein?
C'est un numéro Vodacom, docteur Kaboué, médecin traitant du petit Lambert qui a pris tous ses contacts.
Un numéro de compte?
Oui, numéro de compte.
UBC, donc Union de Banque Congolaise.
Oui.
201-00-296. 09-01-64.
Voilà, pour ceux qui nous suivent en République démocratique du Congo et vous qui nous suivez dans le monde entier parce que nous sommes en direct sur Internet, le monde entier nous écoute, ceux qui sont à Saint-Étienne, là où il y a l'hôpital, ils nous écoutent aussi. Pour appeler docteur Kaboué et apporter vos contributions, vous qui nous avez appelé tout à l'heure, son numéro de téléphone c'est 081-50-23-39-3. Vous avez directement docteur Kaboué. Et le numéro de compte, c'est UBC 201-0029-609-01-64. C'est bien de retenir le numéro de téléphone parce que si jamais le numéro du compte est trop long, au moins avec le numéro Vodacom des docteurs Kaboué, il peut vous redonner ses précisions. Je rappelle, 00-243-81-502-33-93. Appelez sur Okapi Action pour réagir au 081-890-6890. Vous pouvez aussi appeler parce que nous avons toutes les coordonnées du numéro de Dr Kaboué et son compte à banque. Nous pouvons vous les transmettre aussi. Si vous écrivez à action@radiookapi.net sur le même sujet, nous allons vous répondre en vous donnant les coordonnées de Dr Kaboué. Docteur, il y a une question d'un de vos confrères.
Oui.
Et il s'appelle Paulin Kandesha, c'est un médecin.
Oui.
Il l'a appelé de Mbujimai. De quelle tumeur s'agit-il? A-t-il posé la question?
Bon, c'est une tumeur sublinguale, donc une tumeur qui pousse sous la langue, pour laquelle la nature histologique n'est pas encore connue. Mm-hmm. Je ne voulais pas faire une biopsie parce que j'ai peur, en me disant si j'ai fait la biopsie et qu'il savait que la tumeur est un cancer. Mm-hmm. J'essaierai encore bloqué. Oui. C'est pourquoi je me dis, étant donné que Lambert sera certainement opéré à Saint-Étienne, et au cours de l'intervention, on va faire ce qu'on appelle une biopsie extemporanée, c'est-à-dire pendant qu'on l'opère, mm-hmm. on prend un morceau de la masse, on l'envoie au laboratoire, dans les 10-20 minutes qui suivent l'intervention, nous aurons la certitude sur la nature exacte de la masse.
Tout à fait. Il y a une question d'un auditeur de Kalemi. Nous, on respecte nos auditeurs. Il s'appelle Kado. Il commence sa question par ceci. Je ne le souhaite pas, mais si aujourd'hui, vous, docteur Kaboué, et la corporation des médecins qui soignent Lambert, vous réunissez les 17 000 dollars, et que, il a dit, je ne le souhaite pas, Lambert mourrait, que feriez-vous de cet argent?
Si Lambert meurt
et que vous avez...
après qu'il ait été opéré, mm-hmm. on aura payé.
Oui, tout à fait. S'il meurt après, vous aurez payé les factures.
Eh oui.
Oui.
Si Lambert meurt avant d'arriver à Saint-Étienne, je suis un homme honnête, je ferai les comptes. Tous ceux qui m'ont envoyé leur argent, je le connais. Le gouverneur de la Banque Centrale, nous a remis 1000 dollars. Mm-hmm. Le vice-gouverneur de la Banque centrale, 500 euros. Son Excellence, Monsieur Alphonse Mbalwaba, le secrétaire général du gouvernement, il nous a remis 100 euros. Mm-hmm. La maison Margot nous a remis 2000 dollars. Mm-hmm. Monsieur José Landou, un particulier, il a donné 3000 dollars. Mm-hmm. Bah, je ferai les comptes hein, pour dire, voilà, monsieur, vous m'aviez donné 10 dollars, Lambert est mort, c'est très gentil de votre part. Dites-moi où je peux vous remettre vos 10 dollars.
C'est déjà honnête de citer les noms, donc on comprend, voilà, monsieur Kado, vous qui avez appelé de Calémy, la réponse à votre question, on rappelle qu'il y a eu deux propositions d'intervention, Francis Kalombo de Kinshasa, j'espère que Francis Kalombo, vous avez suivi, vous avez noté le numéro de docteur Kaboué, 081-502-33-93, appelez docteur Kaboué, et puis il va vous communiquer le numéro de compte qui est UBC 201-00-29-609-01-64, la même réponse pour l'ambassadeur Jean Trésor qui nous appelait du Kassai Oriental. Voilà autant de coordonnées pour la chaîne de solidarité en faveur de Lambert. Mais docteur, au-delà de ça, la question que je pose, oui. Ce n'est pas pour le cas spécifique de Lambert, mais c'est pour d'autres situations similaires qui nécessiteraient l'équipement qui manque ici à Kinshasa. Vous avez parlé de l'imagerie en résonance magnétique, est-ce ouais. que la RDC, vous avez dit que la RDC n'a pas, même dans les parages, cet équipement-là, pour qu'on ne l'a pas, ça peut coûter combien pour sauver notre vie?
Très bien, c'est une belle question. Moi, je pense que le problème de santé dans le pays est un problème de conception. Le système sanitaire est un système colonial. Qu'est-ce que je veux dire? À l'époque coloniale, chaque société devait soigner son personnel. Aujourd'hui, c'est le même système qui est resté. Des exemples, mais des milliers. La Banque centrale a un centre hospitalier. La Régie des eaux a un centre hospitalier. La RVA a un centre hospitalier. La police a même un hôpital. Mais mon cher ami, on ne peut pas faire de choses comme ça. Je pense que la SNEL, son travail, c'est de nous donner un courant, un bon courant. Je pense que le travail de la Régie des eaux, c'est de nous donner une eau saine. Le travail des cliniques universitaires, c'est de se battre pour que, quand vous venez très malade, que nous puissions vous soigner. Mais pour vous soigner, il faut de l'argent qui nous permettrait d'acheter des équipements. Mais toutes ces sociétés avec des centres médicaux, c'est de l'argent qui est retenu dans ces sociétés. Autrement dit, dans ces sociétés, il n'y a pas tous les spécialistes. D'une façon ou d'une autre, ils terminent aux cliniques universitaires. Donc c'est un problème de conception. Donc il faut réformer, à mon avis, pour que les hôpitaux de l'État aient les moyens de fonctionner.
L'équipement
nécessaire. Parce que quand vous achetez un équipement comme un IRM, l'imagerie par résonance magnétique, ça signifie
dialyse.
Oui, ça signifie que les médecins qui travaillent dans cet hôpital, qui sont de la spécialité, se mettent au niveau de cet équipement. Voilà. Et donc, en se mettant au niveau de cet équipement, ils augmentent la sécurité du malade. Ah oui, ils augmentent la sécurité du malade. Donc ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, les hôpitaux sont surchargés. Je vais dire par exemple, je ne parle pas d'autres hôpitaux, hein, je vais parler des cliniques universitaires, et ceci m'engage. Donc je ne parle pas au nom de l'hôpital, mais je parle à mon nom personnel.
En tant que docteur Kaboué.
En tant que docteur Kaboué, c'est que nous vivons, voilà. Parce que je suis chef de service de réanimation. Sur 10 malades qui entrent dans cet hôpital, un malade paie totalement la facture. Deux malades paient peut-être le tiers de la facture. Mm-hmm. Quatre malades ne payent pas parce que ce sont des recommandés de la police, de l'armée, Alors que la police a son hôpital. Donc à un moment donné, la police ne sait pas le faire. Quand la tante d'un commandant X est malade, la tante elle est soignée aux frais de la police. Hein? Ça signifie que on est submergé de recommandations, il n'y a pas d'argent.
Il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'équipement.
Il n'y a pas d'équipement. L'équipement, il faut que l'hôpital produise de l'argent. Le troisième aspect, les cliniques universitaires, c'est un hôpital de... Le dernier niveau, disons.
Oui, les références, de la référence. Haute, le haut savoir.
C'est ça. C'est un hôpital de l'État. Et l'État doit donner de l'argent dans cet hôpital. Pas seulement venir dire, voilà, nous prenons les factures des malades qui n'avaient pas été capables de payer, nous les payons. Non. Il faut un budget qui vient à l'hôpital pour le besoin de la population, dans cet hôpital, pour le besoin de ceux qui travaillent dans cet hôpital. J'y suis depuis 27 ans. Et parfois on est obligé, le matin, autour de salle en réanimation, de mettre sa main dans la poche pour contribuer parce que le malade n'a pas de médicaments. Non, ça ne peut pas aller comme ça.
Voilà autant de problèmes. C'est un système à partir d'un cas spécifique de Lambert, à partir du cas de la petite Eugénie qui souffre d'insuffisance rénale. On repose la question sur l'organisation de tout le système de santé. Nous rappelons aux auditeurs que le sujet pour lequel nous avons invité Dr Kaboué, c'est qu'il faut urgentement sauver Lambert. Il faut 17 000 dollars américains. On est à combien aujourd'hui?
7 000 quelques.
On est à 7 000. Il faut encore 10 000. On a eu des appels d'offres. Écrivez à action@radiocapi.net pour obtenir les coordonnées bancaires de Dr Kaboué. Et son numéro, c'est le 081 890 le numéro de Okapi Action, c'est 081 890 68 90. Et pour joindre Dr Kaboué, c'est 081 50 23 39 3, le numéro de compte. C'est UBC 201-0029-60-91-64. Quelques questions des auditeurs. Docteur Kaboué, Serge Kachama nous appelle de Mbujimayi. Est-ce que Dieu peut faire quelque chose? Prier et ça ira. Ça, il demande aux auditeurs, point de vue du médecin.
Mon point de vue, je crois en Dieu. Et Dieu a fait le médecin pour soigner les hommes. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, en Mbujimayi, j'ai envoyé un dossier pour une chaîne d'espoir de Lambert à la radio nationale, RTNC Mbujimayi, à la RTDK, la radio-télévision de Bukassai, et à la KHRT, la Kassai Horizon Radio-Télévision, pour que...
Maintenant, sur Radio Okapi, à travers le monde entier.
À travers le monde entier, pour qu'on puisse se mobiliser. Parce que pour moi, au moment où je vous parle, Lambert est attendu à Saint-Étienne le lundi 20 décembre.
Voilà, il faut qu'avant le lundi 20 décembre, que Lambert soit interné, accueilli, reçu à Saint-Étienne pour subir tous les examens préalables avant l'intervention chirurgicale spécialisée par imagerie à résonance magnétique. Et puis Léopold Moulumba nous appelle, il travaille pour Bras Congo en Mbujimayi. Il dit ceci, que la grâce de Dieu vous accompagne, docteur.
Je suis très touché par toutes ces manifestations de bonté envers Lambert et envers le docteur Kaboué, qui se bat pour que Lambert vive. Il a 13 ans, il a toute une vie devant lui. Il doit vivre et je pense qu'on m'aidera à le faire.
Il faut rappeler aux auditeurs que si on sauve une vie, c'est d'autres vies qui seront sauvées après, parce que normalement vous accompagnerez Lambert et vous serez en contact avec cet outil de haute technologie. Qui sait que ça pourra revenir un jour à Kinshasa, aux cliniques universitaires, qu'on aura déjà des médecins qui l'utiliseront grâce à un cas comme celui-ci. On rappelle aussi le cas de Eugénie qui souffre d'insuffisance rénale, il y a un problème de dialyse, tout ça c'est autant de problèmes qui nous concerne. Docteur Kaboué, merci beaucoup et surtout on se serre les cœurs, on se tient la main pour que ça réussisse, pour que Lambert parte et que, je vais te dire la même chose, que la main de Dieu soit sur nous tous.
Merci infiniment. Vraiment merci à Philippe.
Ça va mal pour Lambert, 13 ans. Il souffre d'une tumeur sous la langue, dans la bouche. Une chaîne de solidarité lancée par son médecin traitant, Dr Kaboué, de par le monde sur Radio Okapi, 081 50 23 39 3. C'est le numéro de Dr Kaboué. Si d'ici le 20 décembre, Kaboué est entendu, je veux dire, dans un hôpital à Saint-Étienne en France, d'ici le 20 décembre, le compte bancaire de Dr Kaboué, c'est UBC 201-0029-60-91-64. On va revenir là-dessus avec des réactions des auditeurs, Placide Kabeya et les autres tout à l'heure. Rendons-nous à Bukavu, restons dans le même sujet, dossier de santé. À Bukavu, de nombreuses personnes se prescrivent des médicaments et achètent des produits vendus, même le sol au marché du Kadutu. Exposés au soleil à longueur des journées, certains de ces médicaments sont périmés. Comment consommer ces médicaments? C'est au gré de la spéculation. Malgré les différentes mises à garde du corps médical, la population préfère se procurer les médicaments auprès des vendeurs ambulants que de se rendre dans une pharmacie. On a en ligne depuis Bukavu, Astrid Mujinga. Astrid, bonjour.
Bonjour Walter.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a cette habitude à l'automédication à Bukavu?
Selon les dires du docteur, du médecin spectateur plutôt, du médecin spectateur provincial, je voulais dire, le fait pour beaucoup de malades de se passer de la consultation médicale pour se soigner eux-mêmes ou par des proches est un phénomène social regrettable. Que se passe-t-il alors? La plupart des fois, on a déjà remarqué que les malades ne sont amenés à l'hôpital que lorsque le cas s'est empiré. Pendant tout le temps où le médecin pouvait intervenir, on soignait le malade à la maison selon les symptômes que le malade présente. Et souvent, ces médicaments, on va les chercher au marché en fonction d'une maladie précédente qui semblait présenter le même symptôme et qui a été soignée par ce même médicament. Un cas récent est celui d'un jeune homme d'une vingtaine d'années. Ce jeune homme est mort de la fièvre typhoïde. Il présentait tous les symptômes de la malaria. Ses parents lui administraient des antimalariens, bien sûr qu'ils sont procurés toujours au marché, et le cas continuait à s'aggraver. Lorsqu'on l'a enfin amené à l'hôpital, c'était déjà trop tard, Walter.
Astrid, est-ce qu'il y a une explication par rapport à cette pratique de recours à l'automédication à Bukavu?
Walter, l'explication est très simple. Comme vous pouvez vous imaginer, les consultations par les médecins et autres professionnels de la santé sont payantes. Étant donné les conditions de vie très précaires de la majorité de la population, les gens trouvent facile de s'acheter un médicament au marché plutôt que d'aller payer pour la consultation et ensuite acheter le produit. Écoutons ce monsieur à qui nous avons demandé s'il lui arrive de consulter un médecin en cas de maladie.
Moi, personnellement, je consulte très rarement le médecin. Je connais déjà les symptômes de quelques maladies comme la malaria, la grippe, les amibes. Quand je sens des symptômes comme les maux de tête, la fièvre, le vertige par exemple, je sais que c'est la malaria. Je vais au marché où le médicament coûte moins cher. J'achète quelques comprimés de quinine, je prends, voilà. Même lorsque mes enfants sont malades, j'ai fait la même chose.
Monsieur qui recourt à l'automédication à Bukavu, Astrid Mujinga, est-ce que, quand même une question, est-ce que ces gens qui recourent à l'automédication respectent au moins les doses prescrites pour les médicaments qu'ils consomment?
Walter, c'est là tous les problèmes. Un chauffeur me disait un jour dans un taxi qu'il est grippé et qu'il a avalé 2 comprimés de Bactrim, mais il n'a toujours pas senti de changement. Je lui ai demandé s'il continuait à prendre le même produit. Il m'a répondu qu'il pensait que les 2 comprimés suffiraient. Je lui ai enfin demandé qu'il lui avait dit qu'en cas de grippe, on prend le Bactrim. Il m'a répondu que c'est ce que tout le monde sait en cas de grippe. Une autre fois, un voisin qui disait souffrir de la malaria et à qui j'ai conseillé d'aller voir un médecin m'a tout simplement rétorqué que ça ne valait pas la peine car il suffisait d'avaler un comprimé de quinine avec du foufou très chaud. Et ça n'était fini de la malaria. Ces quelques exemples, Walter, sont révélateurs. Nous avons à ce propos rencontré une vendeuse de médicaments et lui avons demandé si elle savait indiquer au moins le dosage des médicaments qu'elle vend à ses clients. Voici sa réponse. Bon, elle parle en swahili.
Banafika kunuzia batrime na tetraxiline.
Na banajulisha mabelgan.
Tunabatuma bende baangalie ba mganga bafasirie gisi ya kutumikisha dawa.
Eske ni boto njoo mna banaendaka kuona mganga? Lakini banatumia ka modele gani?
Ba mingi banatumia sama de comprimé ya batrime na de comprimé de capsule ya tetraxiline asubuhi, de batrime de tetraxiline 12 RD Bactrim na tetraxiline na magaribi de tetra na Bactrim.
Abana itulikisha siku ngapi?
Mpaka wakati diare na koma.
Kama kwa mfano diare nafanya juma mbili wala tatu.
Mbona anaendelea tukutumikisha dawa wala kiona ajiendeke anaendo na mganga.
Eske ba mingi benye ba nakuyaka kubuguze ile madawa, eske ba nakuyaka balisha kuona mganga?
Hapana. Akisikia tu maumivu kwa mfano ya kichwa, diare, anajua ndenda kusoko, ndapata dawa na ndaikunywa.
Voilà, on vient d'entendre d'autres personnes qui parlent de cette pratique automédication. Astrid Mojinga, est-ce que vous avez réussi à parler de la question avec au moins un médecin pour lui demander à son avis quelles sont les conséquences que l'on peut enregistrer à la suite de la pratique d'automédication?
Eh bien, Albert, nous avons rencontré à ce propos le docteur Louise de la formation médicale de la 5e CELPA et on peut l'écouter.
Lorsque quelqu'un se sent malade et qu'il n'a pas consulté un médecin ou un professionnel de santé et que cette personne-là va dans une pharmacie, elle achète des produits, elle prend ces produits-là sans savoir de quoi elle souffre, cette pratique-là a toujours des conséquences. La première conséquence est que vous pouvez créer la résistance de cette maladie-là vis-à-vis de certains produits pharmaceutiques. Parce que, peut-être la dose que vous avez pris n'est pas suffisante, ou bien vous avez très mal pris, vous avez pris le médicament de façon irrégulière, ou bien vous avez pris un médicament qui est inapproprié pour cette pathologie-là dont vous êtes en train de souffrir. Alors, c'est pour cela que la consultation médicale a été toujours recommandée. Pour faire ce que nous appelons le diagnostic. Parce que le diagnostic est très très important dans la conduite à tenir ou dans ce que nous appelons le management ou la gestion du problème du malade.
Mais on dit que votre consultation est très très chère et qu'au lieu de dépenser 5 dollars pour consulter le médecin, on peut directement acheter les médicaments.
Souvent, c'est ce qu'on est en train de voir, on sent que c'est cher, mais lorsque vous faites le bilan, vous trouvez que ce que vous avez dépensé en dehors, c'est beaucoup plus par rapport à ce que vous pouviez faire quand vous consultez un professionnel de santé et qu'il établit un diagnostic correct avec un management aussi correct de votre problème. Parce qu'aujourd'hui, peut-être vous pouvez acheter le produit, vous avez une accalmie, mais vous ne savez pas ce qui se passe dans votre corps. Peut-être que la maladie s'est calmée tout peu, mais ça continue à s'aggraver. Et que lorsque la maladie maintenant atteint un point culminant, où ça devient chronique, c'est à ce moment-là que vous perdez beaucoup d'argent.
Astrid, c'est un sérieux problème. Étant donné que la pratique est vraiment courante à Bukavu et qu'elle a comme conséquence, elle a comme cause les conditions de vie précaires de la majorité de la population, n'est-il pas moyen au niveau de la province de lutter contre les phénomènes de l'automédication?
Je crois que c'est le médecin inspecteur provincial qui peut répondre à cette question, étant donné que celui qui supervise ce secteur dans la province du Sud Kivu, ici à Bukavu notamment.
Voilà, nous aurons tout à l'heure docteur Ghislain Bissimoua. Astrid, merci beaucoup.
Merci beaucoup Alter et merci beaucoup à tous nos auditeurs.
Pour leur écoute, évidemment, oui.
Okapi. Okapi à Bukavu sur 95.3 FM.
On aura à voir juste pour quelques minutes la stratégie de docteur Bissimoua, médecin inspecteur provincial pour le Sud Kivu. Qu'est-ce qu'il développe comme action en vue de mettre fin à cette pratique de recours à l'automédication? Mais pendant que nous y sommes, toujours dans le secteur de la santé, vous avez entendu tout à l'heure quelqu'un dire, enfin un médecin, docteur Louise, qui a dit qu'il y avait des conséquences terribles pour les gens qui recouraient à l'automédication. Docteur Ghislain Bissimoua, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Alors, moi je suis Walter Molandi. Qu'est-ce que vous faites au niveau de Bukavu pour lutter contre les phénomènes d'automédication?
Disons, la lutte contre l'automédication, c'est un problème assez complexe. Donc, si vous voulez bien, ce que nous avons initié comme activité en rapport avec ce problème, nous avons estimé que l'important c'était d'abord d'essayer d'améliorer l'accessibilité aux soins. Et nous avons estimé que une bonne partie de l'automédication probablement se justifierait pour une raison financière. Et donc, la principale action pour le moment, c'est d'améliorer l'accessibilité aux soins de santé. Voilà.
Et alors, docteur Bissimo, est-ce que et les gens qui vendent les produits pharmaceutiques, quand même le seul dans le marché des Kadutu notamment, c'est à votre niveau de prendre des mesures pour leur dire que ça ne peut pas se faire comme ça?
Effectivement, il y a une procédure qui est en cours, Nous sommes déjà réunis avec les pharmaciens inspecteurs pour essayer de faire un contrôle assez rigoureux dans le secteur pharmaceutique, en essayant un peu de diviser à ce que tous ceux qui manipulent les médicaments puissent respecter les normes.
Mais alors, à votre propre niveau, parce que les ventes pirates des marchés à même le sol, s'il n'y en avait plus sur le sol, les gens se rendraient carrément dans les officines. Il y a peut-être une défaillance au niveau de l'inspection médicale, non?
Il ne faut pas vraiment voir les choses sous cet angle. Donc, comme je vous disais, le monde, le secteur pharmaceutique, c'est un secteur assez complexe. Vous savez, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Il y a d'abord le problème des prix. Il faut reconnaître que les marchés qui sont les médicaments qui sont vendus dans les marchés informels coûtent généralement moins cher que le marché des médicaments vendus dans les officines pharmaceutiques. Et donc, malheureusement pour la plupart de la population ou des consommateurs, ils n'ont pas vraiment la notion de qualité publique. Et je pense, quand vous analysez aussi le contexte socio-économique dans lequel nous vivons, il faut comprendre que ce n'est pas seulement le secteur santé qui peut mettre fin à ce problème aujourd'hui.
Docteur Bissimo, oui, docteur Bissimo, nous avons un problème de liaison téléphonique. On vous prendra peut-être demain dans notre sujet sur la question. Pour l'instant, on vous remercie d'avoir répondu à nos questions et vous souhaitons bonne journée à Bukavu.
Ok, merci et à plus tard alors.
Merci beaucoup, docteur.
Okapi. Radio Okapi, le rendez-vous de l'information.
Okapi. Okapi Action, c'est évidemment tout à l'heure avec d'autres sujets, notamment nous nous rendrons à Bounia et puis à Mbujimayi Kananga, entre les deux. Mais laissez-moi vous faire part des réactions de nos auditeurs en rapport avec le sujet, le cas du petit Lambert, 13 ans, malade d'une grosse tumeur. Il ne peut pas être soigné à Kinshasa parce qu'il n'y a pas un équipement approprié. C'est l'imagerie à résonance magnétique. Il est attendu à Saint-Étienne en France le 20 décembre. Il faut réunir l'argent. Il faut 17 000 $ pour que Lambert soit soigné. Docteur Kaboué, son médecin traitant, a déjà recueilli à peu près 7 000 $ américains. Vous voulez contribuer dans la chaîne de sauvegarde, la chaîne de solidarité envers de Lambert. Appelez Docteur Kaboué au 081 50 23 39 3. Le numéro de compte de Docteur Kaboué, c'est UBC 201-00-29-60-91-64. Des réactions par rapport à ces sujets. M. Mabdiala de Matadi pense que même si l'enfant mourait avant, Docteur Kaboué ne doit pas remettre l'argent à ceux qui ont contribué. Il faut qu'il utilise cet argent à faveur d'autres enfants qui sont malades et qui sont dans des cas difficiles. Et puis de Lubumbashi Placide Kabeya, il dit qu'il encourage Radio Okapi pour cette action en faveur de Lambert, évidemment de Eugénie aussi. L'évangéliste Alain de Béni, sa réaction est la suivante, je cite, « Ça fait mal d'entendre tous ces problèmes et le gouvernement, quel est son travail ?» s'interroge l'évangéliste Alain. « Le gouvernement, poursuit-il, s'occupe des musiciens et autres. Pourquoi ?» pose la question C'est Alain qui pose la question. Pourquoi pas s'occuper d'abord des cas graves comme ces deux enfants? Merci à tous ceux qui sont en train d'appeler de la République démocratique du Congo et du monde. Monsieur Tania de Lubumbashi réagit par rapport à la chaîne de solidarité que nous lançons par la radio grâce à Dr Kabwe en faveur de Lambert. Tania pense que les pasteurs aussi peuvent contribuer dès que le gouvernement existe. Tania pense qu'il ne faut toujours pas remettre la charge aux dirigeants. Fin des citations. Jean-Thierry Bonnébé nous a appelé de Isiro. Il demande aux confessions religieuses du Congo d'aider Dr Kabwe et le petit Lambert. Je rappelle le numéro de Dr Kabwe, c'est 081 50 23 39 3. Pour Okapi Action, vous pouvez écrire sur internet action@radiookapi.net. Le numéro du compte bancaire de Dr Kabwe, c'est UBC 201-0029-60-901-64. C'est pour la chaîne des solidarités en faveur de Lambert. On rappelle aussi l'autre appel SOS en faveur de Eugénie, 11 ans, qui souffre d'insuffisance rénale, dont certaines personnes s'étaient déclarées prêtes à l'aider. Malheureusement, il ne donne plus signe de vie et Eugénie est dans un état très critique. Elle est en train de gonfler. Il faut sauver le monde. On l'a dit tout à l'heure avec MC Solar, si ces enfants sont sauvés, il y aura des équipements et une spécialisation en plus. On n'aura plus besoin d'aller à l'extérieur tout le temps parce qu'on aura déjà des spécialités au niveau de notre pays. Autre chose, à présent, nous allons poursuivre le magazine Okapi Action en nous rendant à l'est de la République démocratique du Congo pour faire face à une autre réalité. Ça va être dans quelques instants avec Jean-Claude Siala qui est maintenant à la mise en onde.
Okapi, pour que la paix ne soit pas qu'une belle idée.
Okapi.
Okapi, active pour la paix.
Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo, plus précisément au nord-est. L'enseignement primaire et secondaire professionnel dans l'Ituri est confronté à des sérieuses difficultés. Malgré cela, les écoles fonctionnent tant bien que mal. Près de 60% d'établissements maternels, primaires et secondaires confondus, ont remis leurs documents statistiques sur le fonctionnement des écoles. Certains candidats se sont présentés au concours du corps inspectoral organisé par la sous-division de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. C'était sous la houlette de l'inspecteur général adjoint chargé de l'organisation. Il était en mission à Bounia. Cela donne à penser que les établissements de l'Ituri pourront prochainement recevoir les visites des inspecteurs pour rehausser la qualité et le niveau de l'enseignement. On va faire le point sur ces situations avec notre confrère sur place à Bounia, Mathieu Ilunga Chamboui. Mathieu Ilunga, bonjour.
Bonjour Walter.
Pouvez-vous d'abord nous dire ce que le chef de bureau de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel venu de Kisangani a fait concrètement comme travail durant son séjour à Bounia?
Walter, d'abord, les écoles de l'Ituri ont de sérieux problèmes. À la ville de Bounia, par exemple, le coût de vie est très élevé. Cela entraîne, entre autres, la difficulté pour les enseignants de pouvoir payer les loyers et de faire face à bien d'autres besoins de ménage. Conséquent de tout cela, les enseignants de l'Ituri ne savent pas à quel sens se vouer. Ils continuent leurs prestations dans un esprit de sacrifice. Il faut comprendre que ce qu'a avoué le chef de bureau de l'enseignement maternel et primaire en mission à Bounia. Selon ce délégué, il faut que le gouvernement de transition prenne à cœur les difficultés des enseignants. Mais dans l'entretemps, cet émissaire nous a fait l'état des lieux du secteur de l'enseignement à l'Ituri. Nous écoutons à la Kabouibande.
Les infrastructures, elles sont dans un état piteux, comme un peu partout ailleurs dans la province, mais en dépit de cet état piteux, les écoles fonctionnent quand même. Il y a des écoles qui ont été incendiées, des écoles qui ont été, disons, les bâtiments détruits, les bancs emportés. Donc les écoles fonctionnent difficilement, comme partout ailleurs. Les enseignants, en dépit du retard ou du non-paiement de leur salaire, ils continuent quand même à s'adonner à leurs activités pédagogiques. Ils travaillent et espèrent qu'un jour, ils seront récompensés. Leurs efforts qui sont en train de déployer pour le moment seront récompensés par l'État congolais qui est leur employeur. Il y a eu depuis 1991 un accord tacite entre les parents et les enseignants. C'est cet accord-là qui fait que les parents quand même continuent à remettre quelque chose aux enseignants que nous appelons généralement prime. Donc il y a une prime que les enseignants reçoivent. Bien sûr qu'elle est minime, elle ne couvre pas tous les besoins des enseignants, mais ils reçoivent ça quand même. Les parents sont essoufflés et demandent que l'employeur met la main à la pâte. Ils sont essoufflés. Franchement, chaque fois qu'il y a assemblée des parents autour de la prime des enseignants, c'est toute une guerre entre les enseignants et les parents, entre les enseignants et même le directeur d'école, parce qu'il le qualifie de complice des parents. Donc, les parents le font, n'ont pas de bon cœur. Ils sont essoufflés. Et d'une façon globale, même à Kisangani, nous connaissons des retards. Les élèves sont modestement habillés. Bon, ils ne partent pas à l'école pieds nus. Ils ont quand même des babouches aux pieds. Ils sont en uniforme, en tout cas ils sont modestement habillés.
Alors, on vient d'entendre Anaclet Kaboui et Bambi, Mathieu Ilunga, on le sait, la situation des enseignants en République démocratique du Congo est très précaire, en Ituri aussi, donc c'est une autre triste réalité par là. Une question, quel est peut-être le taux de fréquentation des élèves à l'école? Est-ce que malgré les difficultés salariales, les enseignants ont tout de même sauvegardé une condition de conscience professionnelle de façon à continuer à scolariser, à enseigner ses enfants?
Alter, il est difficile de vous dire ce qui se passe au juste. Pourquoi je dis cela? Puisque les plaintes viennent de tous côtés. Les enseignants sont sous-payés, sinon très rarement. De leur côté aussi, les parents se disent fatigués et essoufflés à cause de la prime de motivation qu'ils doivent donner pour les enseignants. Les parents disent qu'ils appartiennent au gouvernement congolais, donc à l'État, de payer les enseignants et non aux parents de le faire. Cela aussi, même si ce salaire que paye l'État est insignifiant et vient toujours après plusieurs mois d'attente. Retard que déplore bien sûr ces enseignants. Aussi, ces enseignants souhaitent que le ministère de l'Enseignement s'occupe un peu plus de la situation de l'Ituri, d'une partie de la République démocratique du Congo qui est sinistrée suite au conflit armé. Nous écoutons à ce propos la clé Kaboui Bambi qui vient ajouter.
Mais de toutes les façons, en tant que pédagogue, je vois que les écoles fonctionnent normalement. Je vois les bleus blancs sur la voie publique et il n'y a rien qui entrave le fonctionnement des écoles, du moins dans la ville de Bounia. Les questionnaires statistiques, c'est un questionnaire dans lequel le chef d'établissement répond à une série de questions. Et cette série de questions se rapporte aux infrastructures scolaires, au personnel enseignant, à l'effectif des élèves, à la structure pédagogique de l'école et même à l'état des lieux de l'école. Les statistiques sont très importantes dans le secteur de l'enseignement. Parce que tous nos partenaires, lorsqu'ils veulent nous assister, la première question qu'ils nous posent, c'est celle de savoir combien d'élèves avez-vous, combien d'enseignants avez-vous, combien. Alors, les élèves désagrégés en section, pardon, en sexe, les garçons et les filles, ça nous aide à savoir que dans tel coin, il y a assez d'enfants scolarisables, mais il y a moins d'écoles. Et cela nous aide aussi à demander l'agrément de certaines écoles pour résorber les enfants scolarisables qui ne peuvent pas faire de grandes distances pour les jeunes d'autres écoles.
Voilà, c'était monsieur qu'on vient d'entendre encore une fois, chargé de un inspecteur qui est venu de Kisangani, c'est Anaclet Kaboui Bambi. Dites-nous, Mathieu Ilunga, nous avons suivi un directeur de l'école primaire du lit de Djougou dire que pendant 10 ans environ, certaines écoles n'ont pas bénéficié des visites des inspecteurs. Est-ce que cette fois, y a-t-il eu des dispositions qui ont été envisagées pour remédier cette absence d'inspection du niveau de l'enseignement?
Exactement, Walter. Je vous ai dit que l'inspection générale cherche à doter l'Ituri de nouveaux inspecteurs. Pour cela, la sous-division de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel de Bounia a connu un adieu de l'inspecteur général. Celui-ci a convoyé le concours permettant l'accès au rang d'inspecteur du maternel, primaire et du secondaire. Mais quand je vous parle, le cinquième jour, des candidats venus de différents coins de l'Ituri sont en train de passer leur concours à cet effet. Monsieur l'archiste, il explique le bien fondé de cette épreuve, c'est lui, le délégué.
Oui, je suis venu convoyer d'abord le questionnaire du concours spécial d'accès au corps des inspecteurs de l'EPSP aux fonctions et en même temps superviser le déroulement sur les trois centres que nous avons ici, c'est-à-dire Bounia, Mahagi et puis Aro. C'est d'abord dans la politique actuelle du ministre que nous avons à la tête de notre ministère qui a retenu pour une de ses priorités la revalorisation de la fonction inspectorale. Compte tenu de ce que nous avons comme inspecteurs sur terrain, c'est-à-dire un nombre insuffisant, et compte tenu aussi du vieillissement de ce même corps d'inspecteurs, il s'avère nécessaire de doter notre ministère de nouveaux inspecteurs qui vont s'occuper de l'encadrement des enseignants sur terrain, et cela pourra aider à relever le niveau ou la qualité de notre enseignement par un bon encadrement des enseignants par ces inspecteurs. Le concours concerne tous les niveaux. Nous avons trois niveaux, l'enseignement maternel, l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire professionnel. Donc ce sont ces trois niveaux qui sont visés par l'organisation de ce concours.
Voilà, Monsieur Fritti, Narcisse Mathieu Ilunga, merci beaucoup pour toutes ces informations. Nous aurons un peu plus de détails dans quelques instants en recevant en direct depuis Bounia, toujours, Monsieur Désiré Doundou-Niambou, inspecteur principal de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel au niveau de Bounia. Pour l'instant, on vous remercie beaucoup. Et vous souhaitons bonne journée à Bounia.
Merci beaucoup, Walter.
Au revoir, Mathieu.
Au
revoir. Ok, Action, nous restons sur cette question de l'état des lieux de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel dans le district de l'Ituri, en partant de Bounia, d'où nous avons en direct Monsieur Désiré Doundou-Niambou, est inspecteur principal de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel au niveau de Bounia, district de l'Ituri. Monsieur Désiré Doundou-Niambou, bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous êtes inspecteur principal de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Dites-nous, on a l'impression que la situation de l'enseignement à Bounia a sensiblement baissé. Est-ce que vous confirmez cette information et pour quelles raisons selon vous?
Non, je ne peux pas vous confirmer cette information parce que l'enseignement à Bounia, ça marche un peu. Ces derniers temps, nous n'avons pas trop de problèmes. Par exemple, l'année passée, nous avons terminé à temps. C'est comme ça que les résultats étaient très bien. Mais si pendant la période de rébellion, là, ça ne tenait pas. Mais pour le moment, je pense que l'enseignement tourne très bien comme dans toute la République. Je pense que c'est ça ce que je peux vous dire à vous.
Quelle est la situation dans le reste de l'Ituri en dehors de Bounia?
La situation dont nous sommes à Bounia, d'après les rapports que nous avons reçus, les rapports de la rentrée, partout, les écoles fonctionnent très bien, Et au début de l'année, dans la périphérie de Nioka, d'après les rapports des inspecteurs, c'est là où les écoles n'avaient pas repris à temps. Mais ces derniers temps, nous avons été en contact et nous avons reçu quelques rapports des inspecteurs itinérants. Les écoles fonctionnent partout et pour le moment, je pense qu'à vers la fin de ce premier trimestre, toutes les écoles fonctionnent et je pense que ça va aller, à part quelques incidents d'ordre sécuritaire que vous apprenez et que vous suivez vous-même de temps en temps, mais les écoles fonctionnent. Même aujourd'hui, je dois vous dire que j'ai été en contact avec l'inspecteur de Harou pour demander est-ce que les enfants sont allés à l'école. Et l'inspecteur m'a confirmé que toutes les écoles ont ouvert et comme nous sommes en concours, les enseignements pour les concours des inspecteurs, ça va aussi. Voilà la situation générale, même à l'intérieur de l'Ituri, à Bounia sur place. À vous.
Mais, inspecteur, nous avons appris qu'il y a quelques écoles qui ont subi les affres de la guerre. Il y aurait des bâtiments de quelques établissements qui auraient été incendiés, d'autres détruits. Est-ce que ces établissements ont été réhabilités?
Ah oui, il y a des écoles, plusieurs écoles, pas seulement eux, mais il y a plusieurs écoles qui ont subi les effets de la guerre, effectivement. Bon, on a commencé à réhabiliter quelques écoles dans la périphérie dans le territoire d'Irono, par exemple, il y a eu des écoles qui ont été réhabilitées. En Djougou, quelques écoles également ont été réhabilitées, mais il y a encore un grand effort à faire parce que, vous comprenez, pour le moment, plusieurs écoles fonctionnent, se sont déplacées et fonctionnent ailleurs. Il faudra que les écoles rentrent dans leur milieu d'implantation. Mais après, quand il y aura un peu de calme, mais pour la réhabilité des écoles, nous avons encore beaucoup à faire. Sur place, à Bougna, vous voyez, ça, ce n'était pas l'effet de la guerre, c'était l'effet des intempéries. L'école primaire de Bougna, nous avons déjà fait ce rapport. Il y a eu des accords, mais ça reste, en tout cas, les bâtiments laissent à désirer. C'est ça la situation des écoles en général, à vous?
Inspecteur Désiré Dundu Nyabou, on a noté également parmi d'autres problèmes de fonctionnement de l'enseignement au niveau de Bougna, le problème d'une baisse des tournées d'inspection dans les écoles. Est-ce que vous pouvez nous dire à quand il y aura une reprise, une remontée en puissance des visites d'inspection, des tournées dans les écoles, des Litouri?
Bon, en ce qui concerne l'inspection, je vous dis que pour le moment, c'est général, les inspecteurs, après la guerre, les inspecteurs, ils ont perdu leur moyen, l'unique moyen de déplacement, le moyen élémentaire de déplacement qu'ils avaient. Mais nous savons que petit à petit, nous allons nous remettre et nous pouvons passer dans des écoles pour les inspections. Mais c'est la situation générale de l'inspecteur, ça, nous ne nous lamentons pas beaucoup, nous entendons que les choses changent, et chacun pourra faire ce qu'il peut faire. Voilà, je ne sais pas, si vous avez encore d'autres questions, allez-y, posez concernant l'inspection ou concernant les examens, mais en général, je peux vous dire que les résultats de l'année passée pour les écoles de l'Ituri, les résultats étaient satisfaisant, à part les résultats des écoles de la section technique sociale, ça c'est dans toute la République, je pense. Nous n'avons pas encore les résultats des sections techniques et d'autres techniques agricoles, industrielles, etc. Nous entendons. Même pour les autres, la section normale jusqu'à maths physique, en tout cas, l'Ituri a fait presque 70% comme résultat, comme rendement. À vous.
Voilà, une question d'un auditeur de Bougna, Astrid Mukendi. La question est la suivante, inspecteur. Nous avons des problèmes énormes pour ce qui est des diplômes d'État. Ça traîne. Qu'est-ce que vous, inspecteur, pouvez-vous faire pour résoudre ces problèmes? Certains de vos anciens finalistes n'ont jamais reçu leur diplôme.
Oui, à ce qui concerne le diplôme, là, c'est un problème réel, effectivement. Bon, nous venons d'avoir une nouvelle structure donc, dans l'enseignement. Nous dépendions avant de Kisangani, vous voyez, et quand nous envoyons nos rapports, il y avait des documents qui traînaient et d'autres documents étaient perdus. Mais pour le moment, vous voyez, nous savons qu'il y a trop de problèmes. Nous avons les problèmes à deux niveaux. Le premier problème, même ceux qui avaient eu leur diplôme avant, les diplômes, nous avons, nos candidats, nos lauréats ont perdu presque tous leurs diplômes à cause de l'effet de guerre. À Nyankunde, par exemple, les diplômes jetés par terre, tout ça se détruit. Et ailleurs, là où on a incendié les écoles, là où on a incendié les maisons, il y a d'autres diplômes qui étaient perdus. Et à l'exemple, moi-même ici, mon diplôme était égaré, mon attestation de études supérieures, ça c'était parti avec le diplôme de l'enfant. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est ce que vous demandez, les candidats n'ont pas encore leur diplôme. Il est vrai que en Ituri, nous avons les diplômes jusqu'à l'an 2000, le diplôme de 2001. Pour les diplômes de 2000, 2, j'étais en contact avec l'inspection générale, les diplômes déjà établis, et on nous a promis, on m'a même dit que voilà, il faudra trouver quelqu'un de sûr qui peut ramener les diplômes de 2001, de 2002, pardon, et ça, ça viendra. C'est ça, le dernier résultat que nous avons fait concerne les diplômes. Nous avons les diplômes, il y aura les diplômes jusqu'à 2002, mais à partir de 2003, ça, on verra ça. Je vais demander à l'inspection générale si les diplômes sont prêts. Voilà ce que je peux vous dire à propos des diplômes, à vous.
Oui, mais inspecteur, parce que vous attendez quelqu'un de sûr pour amener les diplômes de 2002 jusqu'à Bounia. J'ai été à Bounia il y a quelques années et on sait très bien les malles d'examen d'État étaient convoyés sur Bounia grâce à l'appui de la communauté internationale, notamment au Tchad et la MONUC. Pourquoi est-ce que vous ne posez pas la question à la MONUC et à Ocha de vous aider encore pour faciliter cela, parce que ils ont toujours fait ça depuis 2001, depuis toutes ces périodes que le pays était coupé.
Oui, je vous remercie pour cette question. Bon, vous voyez, depuis un certain temps, Ocha s'était un peu retiré à ce qui concerne son appui direct pour les affaires scolaires. Pour le moment, l'inspection s'est débrouillée. Effectivement, il y a eu cet appui. Moi-même, j'ai travaillé avec Ocha sur place pour les examens d'État, même pour les diplômes. Bon, c'est une suggestion. Je prends bonne note. Je vais voir les responsables de l'Ocha, mais nous avons de bonnes relations avec le service du social de la MONUC. Je peux voir si on peut accepter de prendre nos courriers. Mais je vous l'ai dit, sincèrement, avec la MONUC, c'est un peu difficile parce que la MONUC refuse même de nous prendre parfois ce qui concerne quand nous sollicitons des services en tant qu'inspecteur tout court, quand le service ne provient pas soit de l'UNICEF ou d'un organisme quelconque. C'est ça le problème. Alors nous préférons être indépendants pour le moment, pour que nous soyons aussi responsables, parce que nous ne pouvons pas dépendre toujours d'eux. Il faudra tout de même que nous prouvions qu'est-ce que nous valons également. Si nous pouvons faire réaliser quelque chose, il faudra que nous le fassions, à vous.
C'est à votre honneur, inspecteur. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions et à celles de nos auditeurs. Je rappelle que vous êtes Monsieur Désiré Doundou Niambou. Vous êtes inspecteur principal de l'enseignement primaire et secondaire professionnel à Bounia. Bonne journée et surtout plein succès dans la réalisation de vos projets.
Merci, je vous remercie moi aussi. Au revoir.
Au revoir. Ok, puis action, nous allons faire le dernier quart d'heure de ce magazine en nous rendant au centre de la République démocratique du Congo. Merci de nous écouter à Mbujimayi, merci de nous écouter à Kananga dans la bande FM. Évidemment, évidemment, nous nous rendons dans ces villes pour joindre notre confrère André Kambala qui vient tout franchement de rentrer de Mbujimayi. Il est passé par Mbujimayi le week-end passé et le vendredi 3 décembre. Il a vu comment Mbujimayi, un centre qui encadre des personnes vivant avec handicap, avait mis en exergue le côté utilitaire de ces personnes-là. On l'a dit ce jour-là que les personnes vivant avec handicap ne sont pas une charge pour la société, mais c'est plutôt des personnes qui peuvent être utiles à la société. Le thème retenu ce jour-là, c'était d'ailleurs la participation des personnes avec handicap au développement, évidemment, de la communauté. Un autre message qu'on avait reçu ce jour-là, en tout cas de la part de quelques personnes avec handicap de Lubumbashi, c'était notamment un message simple, aidez-nous à être utiles. Il ne s'agissait pas, il s'agit pour ces personnes de dire à la communauté que nous ne sommes pas une charge, nous pouvons être utiles à la communauté. Ce que nous allons essayer de savoir, comment ça s'est passé au niveau du Kasaï oriental, principalement en Mbujimayi. Notre confrère André Kambala s'était rendu dans un centre qui s'appelle Lève-toi et marche avec aide. C'est un centre qui fonctionne en Mbujimayi et qui encadre des personnes avec handicap physique, comme on dit en langage technique dans ce domaine-là, les handicapés moteurs, parce que ils ont des problèmes par rapport au mouvement de certains des membres de leur corps. André, bonjour.
Oui, bonjour Alter.
Alors, vous avez pris part aux manifestations organisées par le centre Lève-toi et marche avec aide au niveau de Mbujimayi. C'était à l'occasion de la journée mondiale de la personne vivant avec handicap. Pouvez-vous nous dire comment ça s'est passé dans ce centre-là?
Oui Walter, le 3 décembre, la journée mondiale de la personne vivant avec handicap, nous nous sommes rendus au centre qui encadre ces personnes en Mbujimayi. Justement, il s'agit du centre Lève-toi en sigle, entendez par là, Lève-toi et marche avec aide. Il y avait été organisé un concours de dessin pour les encadrer, une journée porte ouverte pour le monde extérieur. C'était en vue d'exposer les travaux de ces jeunes vivants avec handicap physique.
André, où est situé ce centre dans la ville de Mbujimayi?
Le centre Lève-toi, Lève-toi et marche avec aide est situé au numéro 2 de l'avenue Katengoulou dans la commune de Mouya. Ses portes ont été ouvertes en 2003 par Monsieur Honoré Ngoï Bougitou. Eh bien, la première année, l'encadrement s'est fait pendant 5 mois. Il n'y avait que 5 personnes vivant avec handicap. Pour cette deuxième année, 9 mois sont prévus. Les activités ont débuté depuis septembre. Le centre Lève-toi, en sigle donc, encadre 30 jeunes vivant avec handicap physique, dont 20 filles. Ils y font 2 mois d'alphabétisation avant de passer aux séances pratiques de la coupe et couture.
Dites-nous, André Kambala, quelles sont les conditions d'admission au centre en question? Est-ce que toute personne avec handicap physique peut y être admise sans problème ou sans condition?
Oui, d'après le promoteur du centre, Lève-toi et marche avec aide, pour accéder à ce centre, il faut d'abord être une personne vivant avec handicap physique. Ensuite, exprimer le désir d'être formé et enfin et surtout être âgé de moins de 18 ans. Ici, Walter, nous avons cherché pourquoi, à savoir pourquoi la personne vivant avec un handicap physique âgée de plus de 18 ans n'avait pas droit à ce centre. Eh bien, Honoré Ngoï Bougitou, qui est le promoteur de ce centre et qui sera d'ailleurs invité à ce magazine, nous a répondu que souvent, les handicapés âgés de plus de 18 ans se complaisent à vivre de la mendicité parce qu'ils sont déjà responsables de foyer. Ils ne supportent pas rester sur place longtemps car ils ont de bouche à nourrir.
Peut-être un mot sur les objectifs de ce centre, André Kambala.
Répétition, s'il vous plaît.
Pouvez-vous nous dire un mot sur les objectifs de ce centre d'encadrement pour personnes avec handicap physique?
Voilà, donc il faut dire que comme ancien agent de handicap international, M. Ngoï Bougitou Honoré, nous a dit que juste à la fermeture des portes par cet organisme international qui s'occupait de ces vulnérables en Mbujimayi, c'est lui-même qui a préféré continuer l'œuvre, c'est-à-dire que pour lui, l'objectif principal, c'est le souci d'accompagner la personne vivant avec handicap physique, et cela dans son intégration sociale, qui l'a poussé vraiment à ouvrir ce centre, un centre qui est ouvert à tous les handicapés physiques.
André, quelles sont les difficultés auxquelles est confronté ce centre pour mener à bien ses objectifs? Déjà que ceux de plus de 18 ans sont exclus, on imagine que ça peut engendrer déjà des jalousies ou des appréhensions ou quelques petits problèmes.
Eh bien, le centre Lève-toi et marche avec aide, lettement sigle, ne se passe pas de difficultés. Le promoteur nous en a présenté toute une criée. Et vous constaterez avec nos auditeurs qu'à chacune de ces difficultés, il envisage une solution à court et long terme, ce qui est vraiment à encourager. La première difficulté concerne le site où se trouve le centre. C'est un site tout à fait exigu qui rend impossible l'encadrement de ces 30 jeunes à la fois. Ici, il faut dire que le promoteur sollicite le concours extérieur pour un espace modeste. L'on déplore également le déplacement de ces jeunes de leur domicile jusqu'au centre où ils arrivent à des moments tout à fait différents selon la distance faite par chacun d'entre eux. Le promoteur envisage avoir un moyen de transport personnel. La troisième de ces difficultés concerne l'attitude des jeunes valides face à ces vulnérables. Pour lui, les jeunes qui sont valides sous-estiment le vulnérable, qu'il croit inutile à la société. Ainsi, le directeur, pour cette fois-ci, envisage créer de petits ateliers qui vont employer les enfants qu'il aura formés afin qu'eux-mêmes forment les autres. La dernière difficulté, Walter, du moins pour la série que le promoteur nous a présentée, concerne le salaire de ses employés. vous en doutez, Walter, pour ne fût-ce que ce centre, il emploie ses agents. Comment les paye-t-il? Honoré Bougiton a installé quelques activités génératrices de revenus au centre. Il s'agit de services de la photocopie, de la rayure et de la bureautique. Malgré cela, il supplée l'enveloppe à la fin de chaque mois avec quelque chose, nous dit-il, soutiré de sa propre poche.
Et voilà, André Kambala, merci beaucoup. Nous allons appeler dans quelques secondes Monsieur Bojitou pour qu'il nous donne quelques détails. C'est faute de temps que nous devons interrompre maintenant. Merci néanmoins pour ces informations et bonne journée où vous trouvez.
Okapi.
Okapi, Amboujimaï, sur 93.8 FM.
Voilà, nous allons recueillir quelques informations complémentaires avec les promoteurs de ce centre qui encadre des personnes vivant avec handicap physique au niveau de Mbujimayi, en la personne de Monsieur Honoré Ngoï Bougitou. Monsieur Honoré Ngoï Bougitou, bonjour.
Bonjour.
Alors, on a noté quand même qu'il y avait une activité en faveur des personnes vivant avec handicap physique, particulièrement en Mbujimayi. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près combien de personnes il y en a au niveau de Mbujimayi et pourquoi les causes, si vous voulez, de leur handicap?
Bon, en Mbujimayi, il faut compter pas moins de 10 000, hein, autour de 10 000, 12 000 personnes vivant avec handicap. Hein.
Et pour la trentaine que vous encadrez dans votre centre, on a appris une vingtaine de filles. Quelles sont les garanties que ces gens-là vont être très bien formés, être autonomes, qu'ils ne seront plus une charge pour la société?
Bon, justement, nous avons recruté des formateurs, des gens bien formés. Et puis, nous sommes en train d'envisager de créer des pôles de développement communautaire après la formation de ces jeunes filles. C'est-à-dire, nous allons installer dans chaque commune au moins deux ateliers de coupe et couture, où nous allons installer deux ou trois filles dans chaque atelier. Et ces filles, bien ces responsables des ateliers-là, vont essayer de former les handicapés qui seront autour de ces ateliers-là, puisque les personnes vivant avec handicap, ils ont un problème de mobilité. Alors nous cherchons à rapprocher la formation tout près de leur domicile. Et les filles qui seront dans ces pôles de développement, que nous appelons nos pôles de développement communautaire, ces ateliers-là, bon, ils auront un salaire puisqu'ils vont commencer à coudre. Nous allons faire aussi certaines sensibilisations pour eux, pour que la population puisse fréquenter plus les ateliers et faire des travaux à l'atelier.
Monsieur Honoré Ngoï Bougitou, qui est-ce qui finance les interventions que vous menez en faveur des bénéficiaires de votre projet?
Bon, disons, nous avons eu un financement de Handicap Attention qui nous a aidé d'abord. Mettons, c'était par entreprise d'handicap international, l'Union européenne nous avait aidé un peu. Et puis cette année, il y a le BCECO aussi qui nous a soutenus.
Et ce projet continuera de quelle façon? Est-ce que c'est de façon cyclique? Lorsque les 30 bénéficiaires qui sont actuellement en formation auront terminé, qu'est-ce que vous allez faire du centre? Est-ce que vous allez accueillir d'autres et puis continuer?
Non, je vous informe déjà que la demande est énorme. On ne sait même pas répondre à cette demande. Donc, j'ai pu peut-être vous informer que 80% de personnes vivant avec handicap que vous pouvez rencontrer dans les rues de Mbujimayi, elles n'ont pas d'instruction. Hein. Donc, quand nous avons ouvert ce centre et que les conditions d'admission dans les centres sont faciles, puisque les enfants ou bien les personnes qui se présentent au centre étudient gratuitement et elles sont formées gratuitement, c'est ainsi que nous avons reçu une demande énorme, et à tel point que je vous dis que c'est avec larmes aux yeux que j'ai dû dire non à certaines personnes, mais disons je les ai retenues pour la deuxième session qui débutera probablement en avril 2020.
Monsieur Honoré Ngoy, merci beaucoup pour ces efforts et bonne journée en Bojumaï.
Ok, merci beaucoup.
Voilà, Okapi Action, c'est terminé pour aujourd'hui. Toute l'équipe se réjouit de votre aimable et sympathique attention et vous donne rendez-vous demain 9h02 heure de Kinshasa.